Ça marche. Oh, je suis impressionné par vous ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, vous êtes tellement beaux. On est tellement en famille que je vais laisser mon sentiment de côté et puis vous parler de la part du Seigneur ce matin. Il y a des textes bibliques qui nous laissent perplexes et dont nous ne voyons pas trop l'utilité dans nos situations particulières. Et j'ai été confronté par un de ces textes cette semaine, enfin plus que cette semaine, cette dernière semaine. Ce texte m'a attiré à lui comme un aimant, vous savez, et puis je suis revenu sans cesse pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il voulait me dire, qu'est-ce qu'il voulait peut-être nous dire à notre assemblée. Voilà. Et ma prière, c'était: Seigneur, fais-moi comprendre ce texte. Je comprends peut-être l'utilité de ce texte à l'époque à laquelle cela a été écrit. Mais je voudrais comprendre, Seigneur Jésus, ce qu'il veut me dire à moi aujourd'hui dans ma situation particulière. En quoi ce texte nous concerne-t-il? Vous allez voir, c'est un texte un petit peu spécial. Alors, si vous voulez, je vais commencer par prier. Seigneur, ouvre ta parole à notre cœur. Ouvre nos cœurs à ta parole. Seigneur, garde-nous dans l'humilité, que nous soyons vraiment enseignables, transformables. Seigneur, que ta parole qui est une épée, Seigneur, sonde nos cœurs. Seigneur, tu le sais, je t'aime. J'aime ce qui vient de toi, Seigneur. Et Seigneur, j'en suis certain, notre assemblée t'aime et aime ce qui vient de toi. Seigneur, alors sonde nos cœurs. Sonde mon cœur, sonde nos cœurs, chacun d'entre nous, et conduis-nous vraiment, Seigneur, dans la voie de l'éternité. Amen. Alors, lisons ce texte un petit peu extraordinaire, je trouve. C'est dans Proverbes, chapitre 1, versets 8 à 17. Alors, j'aurais pu m'arrêter pour les versets 8 à 9, ça aurait été facile, c'était l'occasion de la fête des mères ou la fête des pères, j'aurais pu m'en servir, mais c'était tout le texte qui venait à moi. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent « Viens avec nous !» Dressons des embûches, des embuscades, versons du sang. Tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts, tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Alors nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, je te tends le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Waouh. Drôle de texte, hein? Voilà. Alors, ce texte vient suite à l'introduction. J'avais fait il y a quelques semaines l'introduction sur le livre des Proverbes. J'avais expliqué quel était le but et la raison du livre des Proverbes. Ce livre des Proverbes n'a pas d'autre ambition que de nous apprendre la sagesse et de nous faire comprendre comment marcher dans la crainte du Seigneur. Alors, pub. Allez sur le site, vous aurez mon message si vous ne l'avez pas écouté, et les autres messages qui vont ensuite, qui sont vraiment précieux pour nous. Voilà. Et chose curieuse, après que le livre des Proverbes nous dévoile le but, nous apprendre la sagesse et nous apprendre la crainte du Seigneur, le livre nous introduit dans une situation particulière, vraiment très particulière. Un père parle à son fils et lui dit de ne pas oublier l'enseignement qu'il a reçu. De la part de lui-même et de la part de sa mère. Alors les mots en hébreu pour instruction, enseignement, ça fait référence à la fois à la discipline, et Loïc nous a parlé de la discipline il y a la semaine dernière ou il y a 15 jours, hein, et au commandement de la loi que les parents sont censés faire et donner à leurs enfants et à leurs descendants. Le rôle des parents, c'est vraiment extraordinaire. C'est quelque chose que nous devrions vraiment prendre au sérieux en tant que famille dans l'Église. Il y a une instruction spéciale des parents vis-à-vis des enfants. Ne laissons pas, je dirais, au monde, ne laissons pas même à l'Église, je dirais, le soin d'enseigner ce qui est précieux de la parole de Dieu à nos enfants. Hein. Le rôle des parents dans la Bible est indiqué, par exemple, dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. « Écoute Israël !» Écoute, il y a encore le mot écoute ici. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un, notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui sera dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage ou quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Tu les inculqueras à tes enfants. De manière permanente, pas simplement de manière de la parole, mais aussi par ton comportement. Je crois vraiment que le rôle des parents est extrêmement précieux dans la transmission. Alors, parents, ne gâchez pas ces temps où le Seigneur vous donne une mission particulière. C'est votre ministère particulier d'enseigner vos enfants dans la voie du Seigneur, de leur enseigner comment marcher de manière pratique avec le Seigneur. Les enfants vous regardent, nous regardent, la parole et le comportement. Alors jusque-là, ma méditation était assez simple, hein. Voilà, simple, droite. Mais la suite me faisait buter. Hein ? Il est étonnant quand même le premier conseil d'un père à son fils. Alors peut-être le père lui parle d'une situation qui était courante à l'époque où cela a été écrit, n'est-ce pas ? Alors c'est vrai que Jésus raconte par exemple que lorsqu'on se promenait de la route de Jérusalem à Jéricho, on pouvait rencontrer des brigands qui assommaient et là, ça donne l'occasion du bon samaritain. Voilà. Hein ? Mais moi, j'ai jamais connu ce genre de situation. Hein ? Je suis conscient que dans certains quartiers populaires, il y a des phénomènes de bandes qui existent. Hein ? Mais moi, personnellement, je n'ai jamais vécu cette situation. On ne m'a jamais proposé de faire partie d'un gang qui avait le projet d'user de violence. Je ne me suis jamais venu à pied de chez moi à l'église et être entouré par une bande de personnes qui, au lieu de m'agresser peut-être, me dit « Norbert, viens avec nous, viens, fais partie de notre gang et on va faire des choses extraordinaires. » Voilà. Hein ? Ça vous est arrivé à vous ? Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont vécu des phénomènes de bande comme ça. Hein ? Dans certains quartiers, ça existe. Hein ? Où on peut être happé par les phénomènes du copain, etc. Mais moi personnellement, je n'ai pas vécu cela. Florence, c'est t'as vécu ça ? Alors je me suis dit, bon, ben, moi j'ai rien à apprendre de tel passage, je vais le laisser de côté. Mais pourquoi le Seigneur me faisait revenir à ce passage, je ne sais pas. Pourquoi le Seigneur ne me laissait pas tranquille avec ce texte ? Voilà. Je l'ai lu plusieurs fois, j'ai dit, Seigneur, ben, essaye, enseigne-moi, qu'est-ce qui sort de ça, quoi ? Voilà. Alors on va essayer de regarder les mécanismes qui ressortent et qui régissent les phénomènes de bande en fait et de gang. Pourquoi un homme pourrait être attiré de faire partie d'un gang, d'une bande ? Le sentiment de toute puissance, de supériorité, d'orgueil. Viens avec nous. Quand quelqu'un vous appelle, Stéphane, viens avec moi. Tu vois, on va faire des choses extraordinaires. Vous vous sentez honoré. Parce qu'on s'adresse à vous particulièrement. Viens avec moi, on va vivre quelque chose d'un peu d'extraordinaire. Viens avec moi. Même si c'est de l'ordre de la violence. Viens avec moi. Waouh, quel privilège d'être choisi pour faire partie d'une bande. Quel privilège. La bande m'accepte. Si j'ai été choisi, c'est parce que peut-être ils ont vu quelque chose en moi. Hein? Et dans cette soif, je dirais, de reconnaissance, peut-être la bande m'accepte. Vous voyez? Donc, et le phénomène de bande entraîne ce sentiment, je dirais, de toute-puissance et de supériorité. Dans notre bande, nous avons compris des choses que les autres n'ont pas compris. Nous sommes supérieurs à eux. Et alors, il y a cette espèce d'abolition des limites. Si nous pouvons faire cela, mais pourquoi ne pas le faire? Si on peut dresser des embuscades et tuer celui qui va passer, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Je lisais le témoignage d'Augustin, saint Augustin, dans ses confessions. Lorsqu'il était jeune adolescent, Augustin raconte dans ses confessions, il est vieux, donc il se rappelle comment il était dans sa jeunesse, il essaye d'analyser qu'est-ce qui le motivait, et il racontait donc son expérience du poirier. Ses copains et lui vont dans une maison qui ne leur appartenait pas, et il y avait un beau poirier, et ils ont saccagé le poirier. Non pas parce qu'ils avaient des besoins et parce qu'ils avaient envie simplement de poire, mais simplement pour casser, pour casser. Et alors ils ont pris tous les poiriers tous les poires de ce poirier et ils ont jeté, donné au cochon. Alors il explique et il comprend pas qu'est-ce qui le motivait, pourquoi. Donc ce phénomène de bande, si on peut faire quelque chose, pourquoi ne pas le faire, hein? Si on peut casser, pourquoi ne pas casser? Il y a un sentiment de violence qui habite dans le cœur humain. Même s'il y a de vernis de civilisation, frères et sœurs, je peux vous dire que nos cœurs sont violents. Nos cœurs sont violents. Lorsqu'il y a ce phénomène de bande, il y a aussi ce pouvoir sur autrui qui s'exprime. Hein? Verser le sang innocent, c'est-à-dire verser le sang de quelqu'un qui nous est inférieur. Alors c'est bien exprimé ici, hein, dans ce texte, le sentiment de faire partie de quelque chose. Tu auras ta part avec nous, sentiment de faire corps. Le sentiment d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Il n'y a qu'une bourse entre nous. Moi, j'ai compris des choses. Alors tous ces mécanismes, je dirais, en le relant de vieilles tentations, cette vieille tentation d'être comme Dieu, d'être des tout-puissants, d'être des gens qui dirigeons nos propres vies et pour les amener loin de Dieu. Hein. C'est aussi le relent de cette vieille tentation de la tour de Babel, une seule pensée, des mêmes mots pour construire quelque chose qui s'élève contre Dieu, un même désir d'autonomie et de défiance vis-à-vis du Seigneur. Et là, frères et sœurs, j'ai commencé à me sentir concerné par ce texte. Super. L'animation ce matin. J'ai commencé à me sentir concerné par le texte, parce que ce texte rendu vivant par le Saint-Esprit mettait à nu des choses que mon cœur connaissait et connaissait vraiment. Alors ce n'était pas le phénomène de gang, je vous l'ai dit, personne ne m'a demandé d'aller avec eux pour tuer des gens innocents, mais je ressentais que mon cœur était concerné parce que mon cœur peut être violent. Nos cœurs sont violents. Il suffirait que des situations particulières existent pour que cette violence remonte à la surface. Frères et sœurs, écoutez les paroles de Jésus. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est Jésus qui pose le diagnostic sur nos cœurs. Vous vous croyez super, gentil, vous l'êtes. Mais si on va au profond de nos cœurs, il y a de la violence dans nos cœurs. L'apôtre Paul, il est d'accord avec Jésus, heureusement d'ailleurs. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, etc., etc. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, etc., etc., etc. Et encore d'autres textes. Leurs frères et sœurs, suis-je brimé? Suis-je agacé par quelque chose ou par quelqu'un? Mon ego a-t-il été menacé à un moment ou à un autre? Je vais chercher d'autres personnes qui ont le même sentiment que moi. Je vais aller les trouver. C'est sûr et certain que je vais en trouver des gens qui ont été brimés, agacés, énervés. Et puis je vais commencer à faire bouillir la cocotte minute. Je vais faire monter la pression à l'intérieur de moi. Et je vais commencer à croire qu'avec les personnes que j'ai rencontrées, à qui j'ai pu partager mon ressenti, nous faisons partie des personnes qui ont compris les vraies choses et que les autres n'ont pas compris. Et cela me donne de l'importance. Et là, dans ce groupe que j'ai réuni autour de ma propre violence, qui m'écoute et qui ressent aussi les mêmes choses, dans ce groupe, on m'écoute. Et là, dans mon groupe, je casse les autres. J'ai plaisir à casser les autres de ceux qui ne sont pas comme nous. Et ça, ça existe dans les églises. Et ça entraîne des divisions. Ça existe dans le monde du travail aussi. Et je vais demander à Stéphane. Il est où, Stéphane? Voilà. Pardon? Non, il est là. Il est là.
Oh, quelle intro. Merci. Et oui, et ben, alors, ça permet d'être un petit témoignage. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, ça fait 3 semaines, j'ai commencé un nouveau travail. Youhou! Ouais. Voilà, après 3 mois à profiter à la maison. Voilà, c'était chouette. J'ai goûté au Pôle emploi et tout ça, c'est super. Mais le Seigneur me fait la grâce de découvrir un nouveau travail. J'ai déjà pu en parler à la réunion maison. Oui, je fais que leur en parler, donc, voilà. Mais, dans le sens de ce que disait Norbert, eh ben c'est vrai que j'ai commencé donc ce nouveau travail. Donc c'est un métier où je suis au niveau du service après-vente. Donc j'ai des gens souvent qui sont pas forcément contents. Et en fait, alors attendez parce que j'ai mes notes aussi, mais tac tac tac, voilà. Non et donc en fait voilà, l'ambiance est super, etc. On en discute, l'équipe est vraiment géniale, etc. Et au bout de 3 semaines, quelque chose d'étrange, et c'est quand on en a discuté avec Norbert, ça m'a sauté au visage un petit peu. J'ai dit, tiens, c'est étrange, l'atmosphère est particulière. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est qu'en fait, eh ben, j'entends un qui dit, ah, mais t'as vu ça, et lui, t'as vu ça. Et ouais, il y a comme une sorte de critique générale qui est instaurée dans cette entreprise. J'ai dit, mais waouh, ça fait drôle. Au premier abord, il y avait comme une bonne entente générale. Et puis d'un coup, on sent comme une atmosphère particulière. Et alors, au début, on fait pas gaffe. Voilà, moi, je suis concentré. C'est mes premiers jours. Je veux me donner à fond. Je veux montrer que je suis au top et tout ça. Ils ont bien fait de m'engager. Et en fait, quand au bout de 3 semaines, eh ben, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de ma langue, elle commence à sortir un petit peu. Et presque, ben, il y a des mots qui commencent à sortir et des critiques. Et c'est exactement ce que disait Norbert. Est-ce que c'est quoi? C'est pour faire comme eux? Est-ce que c'est pour se faire accepter? Se faire rentrer dans le moule? Et en même temps, en parallèle, il y a un mois de ça, avant que je commence ce travail, eh ben, le Seigneur m'a vachement parlé sur la critique. Et j'avais ce mot poison, en fait. Et en fait, ben, et là, ce que je voyais un petit peu là, ce qui était en train de tourner, c'était que ça faisait presque la petite langue, vous savez, de la vipère qui est un peu pointue, que même en la voyant, elle fait déjà mal juste en la voyant. Et je vois, il y a une expression de Jésus qui dit à un moment, race de vipère. Alors moi, ça m'a toujours fait sourire cette expression, parce que race de vipère aujourd'hui, on a l'impression que ça voudrait rien dire. Mais quand on pense, dans notre contexte, le mot vipère, presque, c'est le fait d'avoir des mots un peu perfides et qui n'amènent pas la vie. Voilà. Et en fait, voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'ai pris cette décision, moi en tout cas, de changer là-dessus. Et je veux pas être rentré dans leur moule. Je veux que eux rentrent dans mon moule, dans le moule de Dieu, le moule céleste. Et je veux apporter la vie et pas la mort, parce que des paroles, on le sait, hein, j'avais les références, tac tac tac, qu'au bout de la langue, on a la vie et la mort, hein. Et tac, tac, tac. Pardon. Juste vous lire. Voilà. Jacques 3, versets 8 à 18. Voilà, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout va bien. Ouais, j'ai perdu ma feuille, ouais. Heureusement que je suis habillé. Alors, mais la langue. On en était où? 8. Mais la langue. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Vous voyez, j'avais pas lu ce verset jusqu'à préparer là ce matin. J'ai dit, bah, wow, c'est mon poison, c'est super. Nous, nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. Et de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Je vais un peu plus loin. Voilà, une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel, elle est de ce monde, de l'homme livré à ses seules ressources, elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habitent le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de bonté, elle produit beaucoup de bons fruits et elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sème dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Et il y a une autre traduction, une autre version qui dit, qui parle d'artisan de paix. Et aujourd'hui, moi, je décide d'être un artisan de paix dans mon travail. Voilà. C'est un peu ce que je voulais dire ce matin.
Merci Stéphane. Alors regardez la fin des versets de ce texte que nous avons lu. C'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Hein? C'est lorsqu'on est dans ces situations, où on est dans un phénomène de gang, où la violence s'exprime de manière même verbale, en fait c'est comme s'il y avait quelque chose qui rongeait les âmes des uns et des autres. Et au lieu de construire, on détruit et on se détruit soi-même. Rongé de l'intérieur par l'amertume, la violence de nos cœurs lorsqu'on ne les met pas à la lumière du Seigneur, eh bien ça gangrène de l'intérieur, ça enlève la paix, ça obnubile. Certains vont même somatiser, hein, parce que cette violence, elle doit s'exprimer, alors on est malade. Certains perdent même du charisme et de l'attrait. C'est comme s'il y avait un voile sur leur lumière intérieure. Lorsqu'on écoute l'enseignement du père et de la mère, c'est marqué que c'est comme une parure que l'on met autour de son cou. C'est-à-dire ça nous rend agréable, ça nous rend eh bien, attirant. On est joli. Voilà. Mais lorsqu'on n'écoute plus l'enseignement du père et de la mère, lorsqu'on se fait une bande à part, etc., eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on perd ce charisme-là qui fait de nous des gens attirants. Hein. Alors vous allez me dire, mais ça ne s'applique pas à nos cœurs, on est chrétiens nous. Hein? Nous avons Jésus en nous. Hein? C'est vrai, vous me le dites ou pas? Ouais. Et je vous dis, oui c'est vrai, vous avez raison, il y a une nouvelle force en nous. Et gloire à Dieu, il y a une nouvelle dynamique en nous, des nouvelles aspirations. Mais il y a aussi ce combat, hein, ce combat. Et je suppose que vous la connaissez et que vous la vivez au quotidien. L'apôtre Paul le connaît. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais, etc. L'apôtre Paul va dire aussi ailleurs, il y a des désirs qui sont à l'intérieur de nous, qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Et il nous appelle à nous soumettre à ces aspirations du Saint-Esprit. Et puis en même temps, on a des aspirations à la chair, des aspirations de la chair. Il y a un combat entre les sentiments de l'esprit et les sentiments de la chair. Hein? Et juste avant, il dit ceci, « Si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde à ce que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. » Par les autres. Si ça s'adresse à une communauté chrétienne. Hein? Si vous vous dévorez les uns les autres. Waouh. On n'en est pas là. Hein? On n'en est pas là, on est loin de là. Mais je fais de la prévention. C'est un de mes rôles. Alors mes amis, mes frères, mes sœurs, je sais que j'insiste beaucoup souvent dans mes prédications sur la misère de nos cœurs. Mais ce n'est pas négatif. Ce n'est pas négatif. Ce n'est pas une pensée négative lorsque j'insiste sur la misère de nos cœurs. Que je pourrais chasser hein, toute cette misère de nos cœurs en disant « je suis quelqu'un de bien, voilà, quand même, etc. » Mais quand je reconnais la misère de mon cœur, il y a une seule chose qui m'inonde. Quand je vois la misère de mon cœur, je vois la grandeur de l'amour de Dieu pour moi. Vous voyez ? Alors c'est ambivalent, mais Jésus va le dire. À celui à qui on a beaucoup pardonné, il y aura beaucoup d'amour en retour. Si vous vous sentez bien, sans problème, vous n'avez pas besoin de sauveur. Vous n'avez pas besoin d'être pardonné. Si vous êtes bien, si vous êtes quelqu'un de bien. Moi, je sais que je ne suis pas quelqu'un de bien. Mais grâce à Dieu qui m'aime, je suis dans un chemin de transformation. Vous voyez ? Et j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur de tout mon cœur parce qu'il m'a aimé le premier. Alors que j'étais destiné à la colère, ennemi de Dieu, il m'a montré son amour en premier. Waouh, ça c'est vraiment extraordinaire. Alors, je voudrais aller un tout petit peu plus loin, si vous me permettez. Il y a une autre partie de ma méditation qui concerne l'Église. Mes amis, il y en a un qui nous a appelés à faire partie de son gang, et c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a dit, viens me rejoindre, viens avec moi, viens suis-moi, et je te ferai. Jésus nous a appelés à faire partie de son gang. Et ce gang, c'est l'Église. Mais ce n'est pas un gang pour détruire, c'est un gang pour construire. Ce n'est pas un gang pour enlever la vie, c'est un gang pour amener la vie. C'est un gang pour construire l'espérance autour de nous et non pas pour enlever l'espérance. Waouh ! Seigneur Jésus, je veux te remercier pour l'Église et pour l'Église locale dont je fais partie. Parce qu'il nous a appelés à former une bande, la bande de Jésus, le gang de Jésus, pour lui, à sa suite. Alors vous venez ? Vous venez ? On va le suivre ? On va le suivre devant nous, on va être des constructeurs de paix, des artisans de paix, comme disait Stéphane. Waouh, merci Seigneur pour ma communauté. Elle n'est pas parfaite, mais Jésus est au milieu, comme il était au milieu de Pierre, de Lévi, de Matthieu, de Thomas. Il y avait des gens qui étaient le zélote, il y avait l'intellectuel, il y avait le pécheur. Et Jésus lui a dit, allez, venez rejoindre mon gang. Et avec ses 12, il a transformé le monde. Alors lorsque nous, on se met ensemble, et qu'on suit le Seigneur Jésus ensemble, et qu'on décide de le faire vraiment Seigneur et Sauveur, eh bien, la ville de Nîmes va être changée. Parce qu'on veut vraiment être soumis à ce qu'il est. Hier, je disais aux jeunes, le succès de l'Église primitive, bien sûr, tient parce que Dieu est souverain et qu'il est rempli du Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quel a été le succès de l'Église primitive ? C'était qu'il y avait des vies qui parlaient. On parle beaucoup de l'apôtre Pierre qui prêche et il y a 3000 conversions. Ouah, c'est extraordinaire, je voudrais prêcher comme lui. Mais il y avait aussi les gens dont on ne parle pas. Et c'est marqué que ces gens-là qui étaient là prenaient leur nourriture dans les maisons avec simplicité de cœur. Et c'est juste marqué après, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Non pas par la prédication de Pierre, mais simplement parce que les gens avaient un témoignage et une vie qui parlait. Hein ? C'était à cause de leur simplicité de cœur, de leur manière d'être en relation avec le Seigneur, que ça touchait les gens qui étaient autour d'eux. Et le Seigneur rajoutait, non pas parce qu'il y avait des belles prédications, mais parce qu'il y avait des vies qui parlaient. Frères et sœurs, ma prière, c'est que nos vies parlent encore aujourd'hui à ceux qui nous entourent. Ils prenaient leur nourriture dans des maisons. Je prie, ça c'est mon rêve. Que nos maisons redeviennent des maisons ouvertes. J'habite 246 chemin du Lavoir. Frères et sœurs, je vous lance une invitation. si vous passez devant chez moi, rentrez chez moi, n'attendez pas le protocole que je vous invite, que vous m'invitiez, peut-être je vais regarder mon agenda, vous passez devant chez moi, 246 chemin du Lavoir, il y a une plaque encore être infirmier, mais ça, vous sonnez à la porte même, vous rentrez, vous poussez le portillon, vous rentrez, vous tapez à ma porte, je suis là, je vous accueille, vous êtes mes frères, mes sœurs. Je prie pour que dans nos églises, dans mon église, dans ma communauté, voilà, les maisons soient ouvertes et que nous n'ayons plus de gêne. Simplicité de cœur, nous sommes ensemble. Waouh ! Il y a une communauté d'entraide, il prenait soin des pauvres, mais pas simplement de leurs pauvres, il prenait soin aussi des pauvres des autres. Il y a une lettre d'un certain Pline, le jeune, qui écrit à l'empereur et qui se dit, mais qu'est-ce que je dois faire de ces chrétiens-là? Ils ont un tel témoignage, nos temples sont désertés, le temple de Zeus et des dieux romains, parce qu'ils prennent non seulement soin de leurs pauvres, mais ils prennent aussi soin de nos pauvres. Vous voyez, il y a un témoignage extra-communautaire. Alors j'aime beaucoup la vision de Samuel lorsqu'il nous partage, il disait, il a marqué sur le flyer, un nouveau style de vie, un nouveau style d'église. Voilà, Seigneur Jésus, ça c'est notre vision en tant que communauté. Et puis il y a des cloisons qui se déchirent. La société romaine, c'est une société qui était cloisonnée à fond, femmes et hommes, esclaves et hommes libres, juifs et grecs et romains, etc. Mais dans la communauté chrétienne, tout le monde se retrouvait ensemble autour de Jésus. Mais n'est-ce pas extraordinaire? Tout le monde, tout le monde. La semaine dernière, nous avons vécu une super réunion maison. Et au moment, c'est la première fois que cela arrive, je ne sais pas si ça va continuer, mais il y avait Florence qui a commencé, Florence, la maman de Sharon, qui est là, qui a commencé à chanter un chant dans la langue de la Côte d'Ivoire, a cappella. Waouh! Son mari, Jean-Jacques, a suivi. C'est la première fois qu'il nous faisait ça. Mais qu'est-ce que c'était extraordinaire! C'était extraordinaire parce qu'on avait le goût du ciel, où les barrières et les cultures ne faisaient pas des cloisons, on était ensemble. Voilà. Waouh! Merci Seigneur pour les cloisons qui se déchirent. Alors mes amis, notre gang est vraiment génial. Si quelqu'un ne fait pas partie de ce gang ce matin, le Seigneur l'appelle, il lui dit, viens, allez, suis-moi. Et moi, j'adresse à vous tous, venez avec nous, parce que nous suivons quelqu'un qui est devant nous et qui s'appelle Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.